Radio Barque, donc 31e, deuxième partie, et nous recevons aujourd'hui Marc Azéma, archéologue et réalisateur de films et de cinéma. Et là, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. Il est aidé du conservatoire du musée Narbovia, Ambroise Lassalle. Alors là, donc, essayons de voir. Ce musée, c'est une de ses missions. Il fait des expositions régulières. Donc il y en a une qui est nouvelle, qui a ouvert il y a quelques jours. Je le disais en début d'émission, elle s'intitule Narbo Martius, une renaissance d'une capitale. Et je crois que la renaissance, c'est important. Mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que ça, à un moment, on a envie de dire, c'est Hollywood, c'est du grand spectacle. Et c'est pas péjoratif du tout ce que je dis par là, parce que ça permet de voir, presque de toucher du doigt. Alors comment, bon, vous faites du cinéma, vous créez des films depuis un certain temps. Celle-ci, alors, l'exposition ou ce film, a-t-il été fait exprès pour l'exposition ou est-ce que, bon, c'était un travail ancien qui aboutit en quelque sorte?
Alors c'est vrai que moi, depuis le début de ma carrière, j'ai une démarche qui est de faire croiser la science et la médiation. Quand je dis la médiation, c'est au sens large, jusqu'au film ou à la bande dessinée, en utilisant les outils de notre temps pour essayer de communiquer la science. Et c'est vrai que depuis le début de cette carrière, j'ai fait ça ici, j'ai fait ça ailleurs. Mais bon, la problématique narbonnaise me tient particulièrement à cœur, évidemment. Et très tôt, dès 1997, on s'est posé la question de vraiment utiliser les nouvelles technologies pour montrer cette ville qui n'existe pas visuellement, sachant que, bon, maintenant c'est très clair, à l'époque, je savais que c'est la problématique essentielle, elle était là pour le grand public. On en parle, mais on ne la voit pas. Donc il faut montrer. Et dans les années 90, grâce à l'émergence des images de synthèse, a permis de commencer à restituer. Et à Narbonne, on était parmi les premiers à le faire, avec le Clos de la Lombarde. En France, hein, on était parmi les tout premiers. On ne le savait pas, mais donc on était une bande de jeunes fous entre Montpellier et Narbonnais à avoir dit, bon, on y va. On l'a fait. Et à partir de là, j'ai toujours eu en tête d'étendre la restitution à l'ensemble de la ville. Et dans les années 2020, on a pu réaliser un documentaire qui s'appelle Narbo Martius, la fille de Rome, qui vient faire la synthèse des recherches archéologiques conduites par les équipes Raymond Sabrier, Corinne Sanchez, etc., autour de la ville, et qui utilise assez intensément les images de synthèse enfin montrer, là, globalement, cette ville.
Et c'est le premier film grand public un peu qui montre, qui permet de découvrir et d'imaginer.
Voilà, c'est le premier film qui a été vraiment produit, qui a permis d'avoir une vue globale. Alors sachant que si on s'en tient à la science, on n'a pas les éléments pour montrer la ville dans son entier. Ça, c'est impossible. Donc évidemment, c'est une extrapolation. C'est là où on part sur de la notion de restitution, où on se permet d'aller plus loin sur la base d'hypothèses. Par contre, c'est pas fait n'importe comment. Et là, on a eu le concours de Jean-Claude Golvin, bon, qui est maintenant un ami avec qui je bosse depuis très très longtemps.
Alors, qui est un
et
dessinateur.
Qui est le grand spécialiste de la restitution. C'est-à-dire, lui, il est scientifique. Il est architecte, il est également illustrateur, et grâce à ses connaissances, il a travaillé dans le monde entier. Il a travaillé à Nîmes, il a travaillé à Arles, il a travaillé dans toutes les cités antiques romaines, en particulier sur les autres périodes et tout ça. Donc lui, il avait une vision globale qui permettait d'aller un peu plus loin et de proposer des hypothèses de restitution sur la base des recherches archéologiques. Et c'est ce qu'on a fait grâce à lui. On a pu se permettre, j'allais dire, d'imaginer les trous, parce que c'est vrai qu'on sait où est le Capitole,
on sait où est le Clos.
Voilà. Mais comme Jean-Claude est quelqu'un qui connaît parfaitement l'urbanisme romain, bon, après l'urbanisme romain, il n'y a pas 36 façons de, tu me comprends, mais de créer une ville romaine. Donc on a des bases, des comparaisons, il y avait des problématiques. On a livré une hypothèse à travers ce film, et grâce à ce film, on a pu donc actionner donc une dynamique qui était de montrer cette ville. Et c'est là où, avec le Narbovia, bon, on commençait à échanger avec le Narbovia dès la naissance du musée. Le Narbovia étant partenaire aussi des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise que je préside, on a mis en place des partenariats au niveau de la médiation. Et c'est vrai que très tôt, j'ai senti qu'il y avait des échanges possibles, et les échanges avec la directrice Valérie Broussel ont fait qu'on s'est mis d'accord sur cette idée d'exposition qui était un peu quelque part le prolongement de cette intention dans le film, mais qui permettait à ce moment-là d'aller beaucoup plus loin avec le concept très actuel et fondamental qui est le concept d'immersion. On a parlé de reconstitution, restitution, Mais la chose fondamentale, et tout le monde en parle en ce moment, il y a des concerts immersifs, vous voyez, c'est à toutes les sauces, c'est l'immersion. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il faut voyager dans le passé et grâce aux outils, se remettre dans ce passé glorieux de la ville à travers les restitutions. Donc voilà pourquoi on a repris notre travail sur les restitutions. On l'a prolongé, on l'a amélioré, on l'a spectacularisé, entre guillemets, afin que le spectateur et le visiteur du Narbovia et de l'exposition puissent se retrouver dans le passé avec donc les outils d'aujourd'hui qui sont la projection en 4K, c'est des images en 4K, et également des animations VR qui vont être mises en place tout au long de la programmation.
Oui, alors la partie alors spectaculaire, spectacularisée, comme vous disiez, Marc Azéma, c'est que justement, à un moment, on est au cinéma, c'est du grand écran, et on a l'impression qu'on est vraiment au pied, justement, des marches du Capitole. Donc, on vit véritablement cette chose-là et on découvre pour beaucoup de gens, j'imagine. En plus, alors vous avez poussé, alors pas l'ironie, mais le clin d'œil jusqu'à filmer un certain nombre, ou incorporer dans ces décors un certain nombre de Narbonnais que vous avez filmés, que vous avez remis dans ces décors. C'est assez amusant. Mais c'est surtout que, enfin, on imagine un petit peu ce qu'a été la dimension et probablement le prestige de ce bâtiment qui était le Capitole, et dont vous dites que, par exemple, par rapport à la Maison Carrée de Nîmes, il était immensément plus grand.
C'est pour ça que la clé, c'est ça, c'est restituer Narbo Martius dans sa monumentalité. Parce qu'il y avait une cité antique, hein, ça, on a à peu près compris que c'était le cas. Mais c'est à quoi ressemblait cette cité ? Et à une capitale. Et une capitale qui avait des monuments qui étaient hors du commun. Et le monument symbole, c'est le Capitole, qui n'a pas d'équivalent en dehors de Rome. Moi, j'y pensais, j'étais à Athènes il y a quelques semaines, quand je voyais le Parthénon, je pensais au Capitole. On est dans ces proportions-là. Mmh. Vous voyez, on est dans ces dimensions-là. Donc le Capitole, qui est deux fois et demi plus important que la Maison Carrée. Donc ça, c'est des notions très fortes qu'on fait passer dans l'expo et qu'on voit. C'est-à-dire, on compare la Maison Carrée avec le Capitole, on voit les façades. Voilà, c'est très pédagogique, mais on en parle. Mais là aussi, il fallait le montrer. Donc ça, on le montre dans l'exposition et à travers les images de synthèse, grâce à un système de projection à trois écrans qui permet d'être immergé vraiment dans l'image. Vous voyez, on est dans l'image, c'est vraiment fondamental. On voit les proportions du monument et on a même des effets de vertige. Vous voyez, on est plongé, on a des impressions de vertige à un moment donné face à cette monumentalité. Et alors ça, c'était vraiment l'ambition de cette immersion, c'était la monumentalité. Mais aussi, pour traduire cette monumentalité, il fallait des échelles. Et la meilleure échelle, c'est l'échelle humaine. Donc il fallait intégrer dans les décors des personnages. On a utilisé la technique du fond vert, vous savez, qui est utilisée au cinéma, en télé, dans les documentaires, Star Wars, etc. C'est une technique très pratique. On a pu le faire et on l'a fait. Tout ça a été fait sur Narbonne. Hein. On a installé des studios sur Narbonne. On est allé sur Toulouse, Perpignan. Enfin, on a mis ça en place sur la région, mais avec la volonté aussi d'utiliser des figurants narbonnais qui vont des associations du Clos de la Lombarde, de la commission archéologique de Narbonne, des acteurs du patrimoine,
mais également du musée. Inévitablement Raymond Sabrier, voilà. Par exemple, vous avez ce qui Raymond est la moindre Sabrier, des choses.
Voilà, Raymond Sabrier, Jacques Michaud, vous avez également Ambroise Lassalle, vous avez des représentants aussi, Valérie Broussel. Après, on peut faire un concours, si vous voulez. Il y a des gens qui commencent à le faire, essayer de revoir le film pour reconnaître les... Et ensuite, des anonymes, hein, voyez, et c'était la volonté, très tôt, de pas utiliser c'est pas péjoratif, hein, c'était même pas économique, de pas utiliser des acteurs professionnels, plutôt de travailler justement avec les Narbonnais, au sens large, liés à l'archéologie ou pas. Donc là, du coup, il y a une espèce de mélange, vous avez des commerçants qui ont rien à voir et qui sont là, et qui, du coup, moi, c'est aussi une stratégie, vous voyez, pour que le public puisse s'approprier
se sentir concerné.
Voilà, se sente concerné, s'approprie le sujet, et enfin, se rendre compte à quoi, d'où ils viennent, entre guillemets, et puis s'en parler, évidemment. Et ça a vraiment marché, que ce soit les projections. On a eu le concours aussi des amis du Clos de la Lombarde pour tout ce qui est costume, un concours toujours très très précieux. Il y a un gros travail de restitution.
On s'aperçoit quand même qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent.
Valérie Basilier, du Mobilier, qui est une décoratrice cinéma. On a vraiment... c'est un travail rigoureux, scientifique. Mmh. À chaque fois, le conseil scientifique de Raymond, quand on avait une question, c'était Raymond Sabrier ou Jean-Claude Golvin. Parce que Jean-Claude Golvin...
À chaque fois, vous vous appuyez sur des compétences.
Conseiller et aussi un peu metteur en scène. C'est-à-dire, on travaillait... Donc, dès qu'on avait une question, et ça a pu se faire justement dans ces conditions-là, c'est-à-dire une vraie complicité avec les gens de l'archéologie, les archéologues en eux-mêmes, et les gens du musée et du patrimoine, et également la population.
Donc, là, quand même, les Narbonnais redécouvrent, et à juste titre, ils prennent parti, justement, dans la redécouverte de cette chose. Alors, donc, on invite tous les Narbonnais et tous les autres, tous ceux qui sont intéressés, à aller se plonger dans cette réalité, à aller se mettre au pied de cet escalier monumental, se comparer aux petits bons hommes qui sont là, présents, et à se sentir véritablement tout petit. Et alors, une question se pose justement, mais vous l'avez évoqué largement, Marc Azéma, ça n'existait plus parce qu'on ne voyait plus rien. La question qu'on se pose, c'est d'immenses monuments comme ça, pourquoi ont-ils disparu? On a tendance à penser que ce sont les invasions barbares qui les ont démolis, mais ce n'est pas forcément le cas.
Alors, il y a plusieurs pistes. Après, je peux laisser la...
Peut-être Ambroise Lassalle pourrait nous...
Ouais. C'est vrai que c'est une question qui est complexe, pour laquelle on n'a pas de réponse définitive. Je pense qu'on va encore avoir besoin de beaucoup de temps pour comprendre. Mais effectivement, aujourd'hui, alors, ce qui est intéressant, c'est que grâce à des recherches récentes, on comprend mieux, par exemple, à quelle époque déjà le Capitole a été démantelé, puisque donc l'équipe des archéologues menée par Corinne Sanchez, qui a travaillé sur le port antique, ont eu la surprise de découvrir entre les années 2013, 14, 15 une grande jetée donc à Mandirac, donc au bord des étangs du Narbonnais. Ils ont découvert une structure portuaire qui est donc une grande jetée qui canalisait le cours inférieur du fleuve et qui a été reconstruite à la fin de l'Antiquité avec un nombre très important de fragments qui venaient de grands monuments de la ville, de fragments de marbre. On parle de fragments de cannelures, de fragments de sculptures, etc. Et tout ça, donc grâce aux travaux des archéologues, ils ont réussi à dater à quel moment ces fragments ont été installés. Et ils ont pu se rendre compte qu'il s'agit de la fin du 4e, début du 5e siècle. Et notamment, ils ont retrouvé des cannelures qui sont d'une taille telle que ça pouvait provenir que d'un très grand temple, donc du Capitole.
Donc là, c'est du réemploi fait par les Romains eux-mêmes.
Exactement.
Dans les années 400, à peu près.
C'est ça. Oui, à peu près dans ces années-là. Et bien sûr, on essaie de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs facteurs d'explication. La ville est... L'Empire romain est devenu chrétien depuis près d'un siècle à ce moment-là. Et clairement, Narbonne est une ville symbolique, donc avec ce temple énorme qui devait être très visible, et peut-être qu'il y a eu volonté de faire disparaître les souvenirs du paganisme, par exemple. Après, il y a certainement des logiques économiques.
Une adaptation au temps, alors. Une adaptation à l'époque.
À la religion dominante qui est le christianisme à ce moment-là. Il y a peut-être des logiques économiques qui rentrent en compte, c'est-à-dire que du fait que ce temple est un peu gênant, on le détruit, puis on récupère ça, parce que c'est bien pratique pour reconstruire d'autres monuments derrière. Peut-être que c'était coûteux d'entretenir un bâtiment si grand, il était vraiment énorme, tu le dis, Marc. Donc c'est compliqué d'entretenir des bâtiments de cette taille-là. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que on récupère, on casse, et puis... et alors, ce qui est le plus spectaculaire, c'est de voir la masse de matière que ça a dû constituer, que ce soit l'amphithéâtre, que ce soit le Capitole, à chaque fois, c'est des bâtiments qui étaient énormes.
Voilà. Et ça, alors, merci pour cette tentative d'explication, parce que c'est vrai que c'est un petit peu mystérieux pourquoi tout cela a disparu. Ça peut effectivement fournir un certain nombre d'explications. On va y revenir, Marc Azéma et Ambroise Lassalle, après une seconde pause.